Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Formula One Express. Aujourd'hui, nous allons parler du Grand Prix s'étant passé ce week-end, le 12 juin 2022, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, au circuit urbain de Bakou. Le circuit fait 6 km, pour une distance totale de 306,043 km, tout au long de la course et de ses 51 tours. Il compte 20 virages et 2 zones de DRS.
Pour vous rafraîchir les mémoires, l'année dernière, la course a été marquée par la crevaison surprise du leader Max Verstappen, qui heurta le mur à plus de 300 km/h. Son accident déclencha un drapeau rouge à 2 tours de la fin de la course. Après 20 minutes de neutralisation, Hamilton relança la course en tête, suivi de Sergio Perez. Malheureusement, au premier virage, Lewis bloque ses roues et tire tout droit dans l'échappatoire, ce qui offre à Checo la seconde victoire de sa carrière et sa première avec Red Bull.
Avant de commencer, j'aimerais expliquer une notion importante à connaître, la notion du DRS. DRS sont les initiales de Drag Reduction System, ou système de réduction de la traînée. C'est un système hydraulique qui permet de relever les flaps de l'aileron arrière, laissant passer un plus grand flux d'air et augmenter la vitesse de pointe pour faciliter le dépassement. Voici un petit exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez-vous dans votre voiture, la main par la fenêtre. Si votre main est perpendiculaire au sol, elle va faire résistance au vent et cela va la forcer vers l'arrière. Par contre, si vous la placez parallèlement au sol, la résistance sera presque nulle et rien ne va la forcer à reculer. Le DRS est activable uniquement dans certaines zones après autorisation du directeur de course. Il ne peut s'activer que dans un cas précis, lorsque la voiture devant vous a un écart de moins d'une seconde. Nous allons maintenant vous expliquer le déroulement d'un week-end en Formule 1.
Le week-end commence avec le jeudi, avec ce qu'on appelle le Media Day. C'est tout simplement le jour où les pilotes vont faire des conférences de presse et des interviews. Ensuite, le vendredi, les pilotes et leurs équipes ont 2 séances d'essais libres de 1 heure chacune pour régler les voitures. Le samedi, une dernière séance de 1 heure est prévue le matin pour préparer les qualifications de l'après-midi. Les qualifs se déroulent en 3 sessions pour établir la grille de départ. La première session est la Q1 qui dure 15 minutes et à la fin de ces 15 minutes, les 5 moins bons temps sont éliminés des qualifications. La Q2 est similaire mais dure seulement 13 minutes. Et la Q3, elle, dure 10 minutes et c'est dans celle-ci que les pilotes peuvent prétendre à la pole position. Et enfin, le dimanche, c'est le jour de course et les pilotes se livrent la bataille que tout le monde attend.
Une fois la course finie, chaque pilote gagne des points, plus ou moins selon sa place finale. Le premier va repartir avec 25 points, le deuxième avec 18, le troisième avec 15, quatrième 12, le cinquième 10, le sixième 8, le septième 6, le huitième 4, le neuvième 2 et le dernier à rentrer dans les points, le dixième, avec un seul point. Il y a également un point attribué au pilote ayant réalisé le tour le plus rapide durant la course uniquement.
Comme je l'ai dit plus tôt, les pilotes commencent par les essais libres 1 ou FP1. Pendant cette séance, on a pu voir que plusieurs équipes, dont Mercedes et Ferrari, ont été touchées par le marsouinage. Le marsouinage est un effet de succion en dessous de la voiture en rapport avec l'effet de sol. L'effet de sol qui procure à la voiture toute l'appui aérodynamique dont elle a besoin. Cet effet l'abaisse jusqu'à toucher le sol. La voiture étant trop proche du sol pour évacuer l'air, il trouve alors un autre moyen de passer, ce qui enlève la charge sur les amortisseurs et rehausse la voiture. C'est là qu'un cycle infernal commence, pour la voiture comme pour les pilotes. Mick Schumacher déclenche un drapeau jaune après avoir bouclé seulement 10 tours. Il est contraint d'arrêter sa voiture car son radiateur a éclaté et répand de l'eau sur la piste. Et c'est Sergio Perez qui termine la séance avec le meilleur temps. Pendant la deuxième séance, on peut notifier quelques ratés mais aucune casse. En revanche, on remarque que les deux Alpines ont une vitesse de pointe extraordinaire. Le meilleur temps est réalisé par Charles Leclerc. La dernière séance d'essai a été très calme, seuls Yuki Tsunoda, Lando Norris et Charles Leclerc ont eu un petit raté. Et c'est Perez qui a réalisé le meilleur temps. La qualification 1 est marquée par l'erreur de Lance Stroll qui vient taper le Tech Pro au virage 15, qui repart pour faire un tour lancé et qui vient détruire sa voiture au virage 2, ce qui provoque un red flag à 2 minutes 30 de la fin. Une fois ce red flag dissipé, 14 voitures sortent pour réaliser leur dernier tour et c'est l'embouteillage sur la ligne droite de départ-arrivée, ce qui est très dangereux. Les éliminés de cette session sont Magnussen, Albon, Latifi, Stroll et Schumacher. En Q2, c'est Vettel qui vient taper le Tech Pro au virage 15, mais cela sans dégâts. Pour information, le Tech Pro est un système qui permet aux pilotes de ne pas taper directement le mur, mais des barrières en mousse qui absorbent bien mieux les chocs. Les éliminés de cette session, Norris, Ricciardo, Ocon, Cho et Bottas. La Q3 est animée par un tour incroyable de Charles Leclerc qui devance les deux Red Bull de 3 dixièmes. Le classement de ce top 10 est donc Leclerc, Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Gasly, Hamilton, Tsunoda, Vettel et Alonso.
Je vais maintenant vous faire un récap de la course en vous précisant les points les plus importants et en débattant avec Hugo sur certaines actions. Le départ. Perez prend la première place après un mauvais départ de Leclerc. Il s'échappe très loin. Quatrième tour, la radio de Sainz nous dit... Au tour 7, Pérez ayant trop forcé sur ses pneus, il commence à lâcher. Au tour 9, nous avons un drapeau jaune causé par la sortie de Carlos Sainz au virage 4 à cause d'un problème hydraulique qui lui fait abandonner. Tour 10, Leclerc profite du drapeau jaune pour faire un arrêt au stand, mais comme d'habitude, un arrêt très médiocre avec un arrêt de 5 secondes.
Pour info, un bon arrêt dure entre 2 et 3 secondes.
En fin de tour, un drapeau vert, la course peut recommencer. Au tour 13, Vettel fait un tout droit au virage 3 sans conséquence. Tour 14, Leclerc signe un meilleur tour avec ses nouveaux pneus durs. Pérez ne se bat pas et laisse passer Verstappen car il a un meilleur rythme. Tour 15, la voiture d'Hamilton touche excessivement le sol à cause du marsouinage. Cela entraîne de très grosses pertes de performance.
En fin de course, on verra que Lewis Hamilton aura des difficultés à sortir de sa voiture à cause de son mal de dos dû à ce marsouinage.
Tour 16, Pérez rentre au stand. Un mauvais arrêt pour lui aussi, 5 secondes 7, encore plus long que celui de Charles Leclerc. Tour 18, Bottas est en agonie ce week-end à Bakou, il n'arrive pas à gagner de place et ne fait qu'en perdre depuis le début. Tour 19, Charles Leclerc repasse premier, avec une avance de 13 secondes qu'il faut qu'il garde. Au tour 24, nous avons un abandon pour le pilote Zou. L'unité moteur Ferrari nous confirme que sa fiabilité n'est vraiment pas très bonne. Tour 29, Hamilton est encore plus en souffrance à cause du marsouinage. Au tour 31, Red Bull demande à Verstappen de baisser son rythme pour économiser les ressources. Au tour 33, nous avons encore un problème pour l'unité Ferrari avec Magnussen qui casse aussi son moteur. Une virtuelle safety car est lancée. Au tour 37, nous verrons l'aileron arrière de Tsunoda fracturé en deux. Un drapeau noir et orange lui est donc annoncé.
Le drapeau noir et orange est là pour signifier que la monoplace d'un des pilotes est endommagée et qu'il n'est plus autorisé à rouler. Il doit donc rentrer au stand dans le tour.
Au tour 39, Tsunoda rentre au stand mais n'abandonne pas pour autant. Son équipe a réussi à réparer l'aileron avec du scotch. Oui, avec du scotch. Tour 40, Red Bull demande encore une fois à Verstappen de ralentir, mais Verstappen dit qu'il ne faut pas faire tomber les pneus en température, car cela nuit à leur performance, ce que les ingénieurs n'avaient pas prévu. Au tour 44, Latifi fidèle à son poste, une récidive d'ignorance des drapeaux bleus.
Un drapeau bleu est agité lorsqu'un leader rattrape un retardataire, ce dernier est obligé de le laisser passer et de se faire prendre un tour.
Au tour 45, Latifi écope 5 secondes de pénalité pour ne pas avoir respecté le drapeau bleu. Au tour 47, le siège est devenu froid pour Hamilton, un message très très surprenant et effrayant. Tour 48, un abandon du pilote canadien Stroll. Tour 51, une bataille entre Ricciardo et Norris éclate. Cela nous rappelle de mauvais souvenirs entre Ricciardo et Verstappen chez Red Bull en 2018, où les deux s'étaient rentrés dedans. Pour finir, sur la ligne d'arrivée, le premier est Verstappen. Pérez finit deuxième et prend la deuxième place au classement général. C'est un doublé de Red Bull. Je vais vous présenter le top 10 du classement. Avec Verstappen et Pérez chez Red Bull, en première et deuxième position. Troisième et quatrième, Russell et Hamilton chez Mercedes. En cinquième position, Gasly pour Alpha Tauri. En sixième position, Vettel chez Aston Martin Cognizant. En septième place, Alonso chez Alpine. En huitième et neuvième place, Ricciardo et Norris pour McLaren. Et en dixième, Ocon aussi pour Alpine. Nous parlerons maintenant des trois événements les plus importants de ce dimanche de course. A commencer par le drapeau vert avec un choix de relance très étrange suite à l'emplacement de la voiture de Magnussen devant une medical car. Est-ce lié à l'incompétence des directeurs de course ? Hugo, tu commences.
Pour moi, c'est clairement une erreur des directeurs de course parce qu'ils auraient clairement dû faire sortir une safety car au lieu d'une virtuelle safety car. Ce qui aurait permis au commissaire de course de prendre la voiture et de la pousser jusqu'à l'échappatoire qui était pourtant à 10 mètres. Il n'y avait pas à chercher bien loin, il y en avait une juste en face. Ce qui aurait permis à la voiture de pouvoir être évacuée et de ne pas bloquer la medical car qui était juste derrière. Quoi.
Je suis assez d'accord avec toi, c'est irresponsable de la part de la FIA, ça aurait pu mettre une vie en danger, hein, très clairement. Hein.
Oui.
Si quelqu'un se crachait ou faisait une sortie de piste, puis tapait un mur à côté, temps de sortir de la voiture, le temps de bouger la voiture de Magnussen, sortir la medical car, sachant qu'en plus ça mobilisait du personnel de bouger la voiture de medical car, de bouger la voiture de Magnussen.
Ça aurait rallongé le temps d'intervention sur le pilote qui aurait certainement été accidenté.
C'est vraiment super dangereux. Hein.
C'est pour ça que la FIA doit travailler là-dessus, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils font des erreurs, alors qu'ils disent être ils disent vouloir améliorer la sécurité, et puis derrière ils nous pondent une action comme ça, c'est aberrant, je trouve.
C'est vrai que c'est quelque chose vraiment qu'ils doivent travailler. C'est pas normal. Il faut pas que ça arrive encore une fois, sinon vraiment, ça commence à devenir beaucoup.
Le jour où il y aura vraiment un gros accident et peut-être un mort, c'est là où ça va bouger. C'est ça qui est dommage.
C'est ça. Ce triste débat, on va passer à l'abandon de 4 monoplaces motorisées par Ferrari.
Triste aussi, ça.
Une fiabilité Ferrari très mauvaise.
Bah oui, clairement. Et en tant que fan de Ferrari, j'espère que ça va se régler tous ces problèmes. Mais oui, ça fait plusieurs fois. Et puis Charles qui voit son parc de moteurs se réduire petit à petit et qui voit les pénalités arriver. Parce que oui, quand on dépasse un certain nombre de pièces utilisées, quand on en récupère une autre pour pas qu'on en ait une vingtaine et que ça coûte des millions, la FIA a imposé que par exemple c'est 3 moteurs à combustion maximum dans toute l'année. Si on en prend un quatrième, hop, on part dernier à la course. On part dernier et c'est une pénalité, quoi.
C'est vrai que c'est difficile de penser que presque tous les moteurs Ferrari sont tombés en panne vraiment le même week-end, même course, presque en même temps. Peut-être après les conditions n'étaient vraiment pas favorables pour le moteur. Peut-être.
Hein, il manquait que 2 monoplaces encore en piste de Ferrari sur 6. C'est ça
pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas tombées en panne? C'est un réglage foireux. Après, on a vu qu'il y a déjà eu des problèmes depuis le début de saison avec ce moteur.
Ouais.
J'espère que ce sera réglé et vite,
on
et très bien.
Que ce sera réglé, à part les fans de Red Bull.
On vous voit. La voiture de Tsunoda réparée au scotch, danger ou authenticité?
Pour moi, franchement, ça rend quelque chose de moins synthétique, de moins superficiel à la Formule 1. Ça enlève ce côté, oui, il faut que ce soit comme ça, Ça, c'est plus ouvert, je trouve. Ça rend plus rustique la Formule 1. Et en plus, on avait connu ce problème avec Fernando Alonso en 2011, je crois, qui avait en bout de ligne droite, au moment du freinage, normalement le DRS se referme pour récupérer l'appui aérodynamique. Et Alonso, il avait continué toute la course avec le DRS ouvert parce qu'il était resté bloqué. Et pourtant, il a dû finir la course comme ça et ça s'est très bien passé. Il a juste perdu quelques places.
Ouais, mais là, on parle de nouvelles F1 avec le nouvel aérodynamisme, les nouvelles lois, tout ça. On n'a pas envie de tester, savoir si c'est dangereux ou pas. C'est un risque qu'il ne faut pas prendre. Et c'est vrai que, bon, coller du scotch sur l'aileron pour le refaire tenir, hein, l'aileron en ligne droite, il prend quand même 600 kg de charge dessus. Hein,
ah oui,
600 kg retenus avec du scotch, quoi.
Ouais, mais on a vu que les 600 kg, le bout de scotch, il a tenu, quoi.
Ah oui, mais imagine, il tenait pas.
Ah oui, mais ça aurait fait quoi? Un gros crash à la limite?
Comment ça, à la limite?
Bah, franchement, je vois pas un DRS ouvert, ça te fait rater ton freinage, tu prends les Tech Pro, franchement, il n'y a pas besoin d'un DRS bloqué pour
mais là, on vient
un crash
sortir,
comme ça.
On vient de sortir d'un débat avec Magnussen de la FIA qui veut augmenter.
Oui, mais justement, ils sont contradictoires, c'est qu'ils pénalisent Tsunoda qui répare son aileron au scotch qui a bien tenu, franchement, c'était bien joué les mécanos. Alors que derrière, ils font une aberration comme ça. Enfin, à la limite, soyez... Franchement, si on laisse la voiture de Magnussen devant la medical car, pourquoi pas laisser... Enfin, c'est pour ça.
Ouais, mais bon, ça reste quand même assez dangereux. Hein. Du scotch qui fait tenir une voiture si complexe, après, c'est vrai que c'est quand même assez marrant. C'est dangereux, mais bon, c'est vrai que c'est marrant et je pense que ça restera... assez longtemps dans les annales de la F1.
Ouais. Et une des solutions qui pourrait être mise, c'est permettre aux mécanos de réparer les ailerons arrière.
Ouais, ou réparer la voiture.
Parce que on a vu que c'est fréquent quand même les problèmes de DRS, parce qu'on l'a vu avec Verstappen à Barcelone, qui avait le DRS qui s'ouvrait et qui se fermait tout seul, comme il voulait. On a vu durant toute l'ère hybride, on a vu plein de fois des problèmes de DRS comme ça. Il faut permettre aux mécanos de changer à la limite juste le flap de l'aileron pour qu'ils puissent repartir et finir la course.
Alors c'est un choix qui est donné, hein. Ils ont le droit, mais le problème c'est qu'en fait ça prend trop de temps. Par exemple, changer un aileron arrière, je crois, ça prend 3 minutes.
Oui, mais justement, parce que les ailerons arrière sont beaucoup trop compliqués à changer. Mais si juste tu retires le flap et tu en remets un autre, à la limite, c'est juste un truc qui glisse et que tu fermes avec, comme pour les ailerons avant, typiquement.
Ah, peut-être, oui.
Ça aurait pu être ça.
C'est quelque chose, mais après, est-ce que c'est autorisé par les règlements FIA, tout ça ? C'est encore autre chose.
Oui, bah, ça, c'est à la FIA de voir.
C'est ça.
Ce week-end, ce n'était pas seulement la Formule 1 qu'il fallait suivre, car il y avait également les 24 heures du monde. Voici donc les résultats de l'une des plus grandes courses du monde. En hypercar, c'est le doublé Toyota, qui ont facilement dominé le reste du plateau. L'écurie française Alpine est seulement 23e au général, après avoir connu quelques problèmes en début de course. Victoire de l'équipe Jota en LMP2. Sébastien Ogier dans le top 10 pour ses premières 24 heures avec Richard Mille. Porsche a remporté la catégorie GTE Pro devant les deux Ferrari, Corvette ayant perdu ses deux voitures dans la matinée.
C'est donc la fin de cette émission. J'espère que vous reviendrez nous écouter souvent. Nous étions à Antithèse Radio, à l'Orgue. Merci à eux de nous avoir prêté leur local pour tourner cette émission. Ciao.